Les journaux l'ont surnommé l'étrangleur de Hillside, mais la police croit qu'il n'agit pas seul. La piste à suivre pour le capturer est difficile, les indices sont rares et les meurtres s'accumulent. Les parcs de la Californie fourmillent de centaines de sentiers pédestres, parmi lesquels se terre un tueur. Comment les détectives pourront-ils le trouver dans pareille étendue? Les cadavres de plusieurs jeunes hommes sont retrouvés le long d'une autoroute du Midwest américain. La police connaît l'identité du tueur, mais devra prouver sa culpabilité avant qu'il ne soit trop tard. Le tueur en série ne pense qu'à une chose, tuer. Il ne s'arrête jamais de lui-même et le nombre de ses victimes augmente sans cesse. Son obsession est telle que seule la police pourra l'arrêter. Il est sans pitié. Le jour de l'Halloween 1977. Près des collines qui bordent le nord de Los Angeles, un homme fit une macabre découverte. Le corps d'une femme nue gisait devant sa maison. Après avoir recouvert le cadavre d'une toile pour le dérober à la vue de ses enfants, il alerta la police. Le détective Frank Salerno fut l'un des premiers inspecteurs à arriver sur les lieux.
Lorsque j'ai reçu l'appel, on m'a d'abord dit qu'il pouvait s'agir d'une overdose. Mais dès que j'ai vu le corps, j'ai tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'une overdose, mais bien d'un meurtre.
La victime avait des blessures au cou, au poignet et aux chevilles, ce qui laissait présumer qu'elle avait été ligotée avant d'être étranglée. Elle avait également été violée. On ne savait rien de son identité ni de son lieu de résidence. En fait d'indices, les policiers ne recueillirent qu'une seule petite fibre blanche sur une de ses paupières. Ce n'était pas grand-chose, mais pour le moment, c'était tout ce dont il disposait. Moins d'une semaine plus tard, un témoin aperçut le corps nu d'une femme sur le sentier qu'elle avait emprunté pour faire son jogging matinal. Ce meurtre n'était pas sans rappeler le premier. Tout comme la première victime, elle avait été violée, étranglée, et son corps avait été abandonné à la vue de tous. Le meurtrier avait même pris soin de le laisser sur un plan légèrement incliné.
La seule différence entre les deux meurtres était l'identité des victimes. Il y avait les mêmes marques au poignet, les mêmes marques aux chevilles au centimètre près. Il y avait également les mêmes marques de strangulation au cou. Nous avons immédiatement conclu qu'il s'agissait du même ou des mêmes auteurs.
Les meurtres ne s'arrêtèrent pas là. Les médias ignoraient que la police était à la recherche de deux suspects et ils surnommèrent le meurtrier l'étrangleur de Hillside. Le 20 novembre, un garçon de 9 ans qui jouait au ballon près de chez lui aperçut ce qu'il croyait être deux mannequins. Il s'approcha et découvrit qu'il ne s'agissait pas de mannequins. On avait signalé la disparition de Dolores Cepeda et de Sonia Johnson une semaine plus tôt. Elles avaient à peine 15 ans. Leur meurtre ressemblait en tout point aux deux autres meurtres attribués à l'étrangleur. Cependant, dans ce cas-ci, il y avait eu un témoin. Un garçon avait aperçu les jeunes filles le jour de leur disparition. Elles étaient descendues de l'autobus et un homme était sorti de sa voiture et les avait abordées. Le garçon n'avait pas pu voir le visage de l'homme, mais il se rappelait que la voiture était une berline d'une bonne taille. La directrice de l'école que fréquentaient les jeunes filles les connaissait très bien et elle était convaincue qu'elle n'aurait jamais suivi un inconnu, à moins que ce dernier ne démontre qu'il travaillait pour la police. Les médias avaient énormément parlé de l'étrangleur de Hillside et tous les élèves étaient sur le qui-vive. Le 28 novembre, pendant la fête du Thanksgiving, l'étrangleur de Hillside ne s'offrit pas de répit. Les parents de Lauren Wagner furent pris de panique lorsqu'ils constatèrent que leur fille n'était pas rentrée à la maison la veille au soir. Ils furent d'autant plus inquiets lorsqu'ils s'aperçurent que son auto était pourtant garée devant. Que s'était-il donc passé après son retour? Un voisin déclara avoir aperçu Lauren garer sa voiture vers 21h. Elle avait été suivie par une autre voiture. Deux hommes en étaient sortis et l'avaient abordée. Selon le voisin, les deux hommes ne semblaient cependant pas être des policiers. Lauren était montée à bord de leur voiture et ils étaient partis tous les trois. Son corps fut retrouvé le lendemain. Le témoignage du voisin corroborait cependant l'hypothèse de deux meurtriers. Il était également possible qu'ils se fassent parfois passer pour des policiers. Six semaines plus tard, on découvrit le corps d'une prostituée de 18 ans. Les meurtriers semblaient narguer la police. Ils avaient abandonné le corps sur le flanc d'une colline, avec l'hôtel de ville pour toile de fond.
C'était comme s'ils voulaient nous dire qu'ils n'avaient pas abandonné. Ils agissaient en toute impunité. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient.
Les détectives apprirent bientôt que la prostituée s'était rendue à un appartement ce soir-là. Ils y trouvèrent des empreintes qui appartenaient peut-être à l'un des meurtriers. Malheureusement, ces empreintes n'étaient pas répertoriées dans leur base de données. Puis, les meurtres cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Il était impossible de poursuivre l'enquête avec si peu d'indices. La seule alternative était d'attendre. Après un règne de terreur de 4 mois, un calme inquiétant s'abattit sur Los Angeles. L'étrangleur de Hillside pouvait recommencer à tout moment, mais où et quand? En janvier 1979, à Bellingham, dans l'État de Washington, un homme signala la disparition de sa petite amie et de la jeune femme qui partageait son appartement. Elle lui avait dit qu'elles allaient surveiller une maison pour rendre service à un gardien de sécurité. Les détectives se rendirent à l'appartement des deux jeunes femmes. Dès son arrivée, Terry Mangan, le chef de police de Bellingham, sut que Diane Wilder et Karen Mandick couraient un grand danger.
Nous avons compris tout de suite que quelque chose d'anormal était arrivé. Il y avait des sacs d'épicerie dans la voiture de Diane Wilder qui contenaient des aliments périssables. Le chat n'avait pas été nourri, on ne l'avait pas fait sortir et les lumières étaient allumées.
Il était encore trop tôt pour déterminer quels indices allaient se révéler importants par la suite. Les policiers recueillirent tout ce qu'ils purent, notamment la carte de visite d'un gardien de sécurité du nom de Kenneth Bianchi et une note où Diane Wilder avait écrit que Bianchi avait téléphoné. Lors d'un interrogatoire, ce dernier nia connaître les deux jeunes femmes et déclara qu'il n'avait pas pris d'arrangement pour faire garder une maison par quiconque. Ce soir-là, il suivait un cours de technique policière car il espérait faire partie de la réserve du bureau du shérif. Quelques heures plus tard, les policiers reçurent l'appel qu'ils redoutaient. Quelqu'un avait aperçu une voiture abandonnée près d'un chantier de construction désert. À l'intérieur se trouvaient les cadavres de Diane Wilder et de Karen Mandick. Elles avaient été étranglées. Elles avaient vraisemblablement été tuées à un autre endroit. Celui qui les avait abandonnées sur le chantier avait pris soin de bien essuyer la voiture. Il n'avait laissé aucune empreinte digitale.
Diane Wilder and Karen Mandick, both of them Western Washington students.
L'expert Bob Knudsen de la police de Bellingham examina la scène.
Notre première impression, c'était qu'il ne s'agissait pas d'un amateur. Il avait déjà tué.
Mais les meurtriers d'expérience ne sont pas infaillibles. « les détectives recueillirent un cheveu qui ne semblait pas provenir d'une des victimes. Ils espéraient qu'il appartenait au suspect. Il y avait des fibres dorées qui provenaient sans doute d'une moquette sur les vêtements et une des chaussures d'une victime. Cette moquette se trouvait peut-être sur la scène du crime. Comme cette couleur est plutôt populaire, retrouver sa provenance serait difficile. Les détectives disposaient cependant d'une adresse qu'une des jeunes femmes avait laissée dans le coffre à gants de la voiture. Pendant l'examen de la voiture, les experts avaient également remarqué un autre détail. Des tiges de bruyère fraîches étaient encore coincées en dessous. Les policiers remorquèrent la voiture à la fourrière pour l'examiner plus attentivement. Sur le réservoir à essence, ils remarquèrent des marques récentes. Le meurtrier avait peut-être éraillé le dessous du véhicule et le réservoir sur une pierre lorsqu'il avait placé les deux cadavres dans le coffre arrière. Des éraflures, quelques tiges de bruyère et des fibres de moquette dorées. Tous les éléments de l'intrigue étaient là. Mais que signifiait-il exactement? Les policiers se rendirent à l'adresse trouvée dans la voiture. Il s'agissait d'une maison vide. Par la fenêtre, on pouvait voir que la moquette était dorée. Ils téléphonèrent à l'entreprise de sécurité qui était chargée de sa surveillance et découvrirent qu'il s'agissait de l'entreprise pour laquelle Kenneth Bianchi travaillait. On leur apprit que la clé de la maison qui devait se trouver au dossier avait disparu. Pendant que la police obtenait les autorisations requises pour pénétrer dans la maison, les experts examinèrent les environs.
Il y avait des buissons de bruyère, ça et là. Bob Knudsen et Terry White se sont frayés un chemin et ils ont alors aperçu des marques récentes sur une pierre qui se trouvait dessous. Plus tard, nous avons bien vu que les marques correspondaient à celles qui se trouvaient sur le réservoir à essence.
À l'intérieur de la maison, les détectives recueillirent les cheveux de trois personnes différentes. Deux d'entre eux étaient identiques à ceux des victimes. Le troisième correspondait à celui qui avait été recueilli dans la voiture. Ainsi, la voiture avait été garée devant cette propriété. De plus, les deux jeunes femmes accompagnées d'un inconnu s'étaient bien trouvées à l'intérieur de la maison. Les seules personnes qui y avaient accès en l'absence des propriétaires étaient les employés d'une entreprise de sécurité. Kenneth Bianchi était à nouveau leur suspect numéro un. Les policiers obtinrent un mandat de perquisition de sa maison. Ils espéraient trouver des indices reliés au meurtre. Mais au lieu de cela, ils découvrirent un lot d'objets volés dans le sous-sol. Ces objets allaient au moins leur permettre d'arrêter Bianchi et de le détenir jusqu'à ce qu'on trouve assez d'indices pour prouver son implication dans les meurtres. Les détectives apprirent alors que Bianchi ne s'était jamais présenté au cours de technique policière le soir de la disparition de Wilder et Mendick. Ils procédèrent à son arrestation. Les cheveux découverts dans la voiture et la maison vide étaient bien les siens. Ils s'étaient donc trouvés aux deux endroits. Les détectives étaient convaincus d'avoir arrêté l'auteur des deux meurtres. Ils ignoraient cependant que Bianchi en avait peut-être commis quelques autres auparavant. Ils découvrirent chez lui un permis de conduire de la Californie et téléphonèrent à la police de Los Angeles pour vérifier s'il avait un casier judiciaire. Le détective qui leur répondit avait fait partie de l'escouade spéciale de l'étrangleur de Hillside et il remarqua immédiatement plusieurs ressemblances troublantes. C'était le téléphone que le détective Frank Salerno attendait depuis 2 ans.
Non seulement vivait-il dans la même rue que deux des victimes, mais il avait aussi habité rue Tameron, où se trouvait la maison de Kimberly Martin. Nous nous sommes retrouvés instantanément avec un suspect qui était relié à 3 des victimes. Nous n'avions jamais été si près du but auparavant.
Le cheveu recueilli dans la voiture de l'État de Washington ressemblait en tout point aux cheveux découverts sur 2 des victimes de Hillside à Los Angeles. Les empreintes de Bianchi correspondait également aux empreintes recueillies lors du meurtre de la prostituée. Confronté à ces preuves accablantes, Bianchi avoua que son cousin Angelo Buono et lui-même étaient ceux qui avaient étranglé les femmes de Hillside.
Nous avons réuni tous nos indices, qui n'étaient en fait que quelques fibres, et nous avons perquisitionné la maison et l'atelier d'Angelo Buono.
Les experts y recueillirent des fibres identiques à celles qui avaient été découvertes sur deux des victimes. Les deux hommes expliquèrent par la suite comment ils s'y prenaient. Ils roulaient dans les rues d'Hollywood en se faisant passer pour des policiers en civil. Certaines de leurs victimes étaient des prostituées et donc faciles à attirer. D'autres femmes étaient tout simplement arrêtées sous de faux prétextes. Une fois en voiture, elles étaient menottées puis conduites à l'atelier de Buono, où les deux hommes les ligotaient et les violaient avant de les étrangler. Il ne leur restait plus qu'à se débarrasser de leur corps sous le couvert de la nuit.
How does the defendant plead to count one of the information?
Guilty, Your Honor.
How does the defendant plead to count two of the information?
Guilty.
Bianchi plaida coupable à deux meurtres au premier degré dans l'État de Washington et avoua avoir commis 10 meurtres en Californie. Tout comme son cousin Angelo Buono, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. On associe généralement violence et meurtres crapuleux aux grandes villes. Malheureusement, les tueurs en série se trouvent partout. En octobre 1980, au cours d'une randonnée dans le parc du mont Tamalpais, au nord de la Californie, des jeunes femmes firent une macabre découverte. Le corps d'une femme gisait sur le sol. Elle avait été violée, puis tuée d'une balle dans la nuque. Les policiers examinèrent la scène du crime. La victime s'appelait Anne Alderson. Elle avait 26 ans. La veille, elle était venue dans ce parc pour y méditer. Elle ne devait jamais rentrer à la maison. Le détective Rich Keaton, du bureau du shérif de Marin County, menait cette enquête.
Ce parc est un peu comme un sanctuaire où l'on vient se reposer. Il surplombe la baie de San Francisco. Que quelqu'un ait commis un crime si violent dans un endroit si paisible tenait presque du sacrilège.
Il n'y avait pas beaucoup d'indices sur la scène du crime. On recueillit cependant des traces de sperme. Les projectiles prélevés sur le corps de la victime furent envoyés au laboratoire de Santa Rosa. L'expert Mike Waller espérait découvrir quel type d'arme le meurtrier avait utilisé.
On peut examiner une balle sous un stéréoscope comme celui-ci, et en évaluant certaines caractéristiques et en la mesurant, on peut déterminer le modèle de l'arme et parfois même la marque. Dans ce cas-ci, nous pensions que l'arme utilisée était peut-être un revolver spécial Rossi de calibre 38.
Un mois après le meurtre, des détectives recherchaient deux femmes portées disparues sur les sentiers du parc de Point Reyes à Marin County, lorsqu'ils firent une découverte inattendue. Les corps d'une femme et d'un homme gisaient face contre terre dans la forêt. Ils avaient été tués à l'aide d'une arme à feu. Les policiers qui examinèrent la scène ne remarquèrent aucune empreinte de pas, aucun cheveu ni fibre. Il n'y avait que quelques balles. Pendant que les experts terminaient l'examen des lieux, les policiers découvrirent le corps des deux femmes portées disparues. Elles avaient été déshabillées, violées et tuées. Le meurtrier n'avait laissé ni empreinte ni indice important. Les détectives étaient aux prises avec 5 meurtres et ne disposaient que d'une poignée de balles. Mike Waller examina ses projectiles et constata qu'ils avaient tous été tirés avec la même arme à feu. Aucun doute n'était possible. Un tueur en série rôdait dans les parcs de l'État et s'attaquait aux randonneurs. C'était malheureusement tout ce que l'on savait. Les médias le surnommèrent « Trailside Killer », le tueur des sentiers. Il était de plus en plus évident que le tueur n'en resterait pas là. Mais comment le retrouver ? Il était très rusé et semblait planifier ses meurtres avec soin. Une équipe de policiers fut chargée de recueillir les témoignages des randonneurs. Certains d'entre eux déclarèrent avoir aperçu un homme étrange rôder dans les sentiers le jour précédent. Grâce à leur description, la police fit dresser un portrait du suspect. Pendant ce temps, des experts dressaient un profil psychologique du tueur. Il devait sans doute être un homme de race blanche, entre 20 et 25 ans, être grand et élancé, et avoir les cheveux noirs. En somme, un physique agréable et une personnalité avenante et sympathique. Une fois le portrait terminé, il fut distribué partout au pays. La police fit poser des affiches dans tous les parcs d'État et dépêcha des agents civils pour surveiller les sentiers. On demanda également l'aide du FBI. Un plan fut mis au point pour capturer le tueur. Ce plan s'appelait « Code 555 ». Il consistait à dresser des barrages sur toutes les routes du comté dès qu'un nouveau meurtre serait signalé. Cela n'empêcherait évidemment pas un nouveau meurtre d'être commis, mais il n'y avait pas d'autre alternative pour appréhender le suspect. Il fallait faire quelque chose. Comme dans un film d'horreur, un monstre rôdait dans la forêt des montagnes du nord de la Californie. 4 mois s'étaient écoulés sans qu'il ne se produise de nouveaux meurtres, mais les détectives savaient que le tueur des bois pouvait agir à tout moment. En mars 1981, des randonneurs du parc Henry s'arrêtèrent quelques minutes à un observatoire lorsqu'ils entendirent des cris. Un jeune homme terrifié s'approcha d'eux en boitant et en criant. Il se promenait dans la forêt avec sa petite amie lorsqu'un inconnu leur avait tiré dessus. Sa petite amie était morte et le tueur était toujours en liberté dans le parc. Les policiers arrivèrent sur les lieux en quelques minutes. Malheureusement, le meurtrier semblait s'être échappé à nouveau. Le jeune homme, Stephen Hartle, fut envoyé d'urgence à l'hôpital. Les policiers avaient prévu dresser des barrages sur toutes les routes qui traversaient le comté de Marin. Malheureusement, le tueur des bois n'avait pas frappé au même endroit. Le parc se trouvait dans le comté de Santa Cruz. Les policiers de Santa Cruz découvrirent des empreintes de chaussures sur la scène du crime. Ils en firent des moulages pour analyse ultérieure. Ces empreintes et les balles étaient les seuls indices dont les autorités disposaient. Mais quelque chose avait échappé au contrôle du tueur. Stephen Hartle avait survécu et il avait tout vu. Lorsque la police lui montra le portrait robot du tueur, cependant, Hartle ne le reconnut pas. L'homme qui s'était attaqué à lui ne lui ressemblait pas du tout. Était-il possible que Hartle et sa petite amie aient été victimes d'un meurtrier qui se plaisait à imiter le tueur des sentiers? L'homme qui s'était attaqué à eux était grand, costaud, il avait une moustache, portait des lunettes et était pratiquement chauve. De plus, il avait bien 20 ou 25 ans de plus que l'homme du portrait robot. La police fit faire un nouveau portrait et redoubla d'efforts pour retrouver non pas un, mais deux meurtriers.
Thank you. All right, bye-bye.
C'est alors que le détective Keaton reçut l'appel qui allait enfin le remettre sur la bonne piste. Le service balistique avait comparé les balles du comté de Santa Cruz à celles de Marin et constaté qu'elles avaient été tirées par la même arme à feu. Il n'y avait pas de jeune homme. La police avait perdu son temps à mettre au point le portrait robot du premier suspect et s'était trompée sur son apparence. Il fallait maintenant concentrer ses efforts sur la description qu'on avait faite Hartle.
Plutôt que de chercher un jeune homme de race blanche d'environ 25 ans, nous nous sommes mis à la recherche d'un homme d'environ 50 ans.
L'enquête se poursuivait. Pendant ce temps, la vie continuait son cours. Heather Skaggs se cherchait une nouvelle voiture. Son petit ami et elle avaient fait le tour des concessionnaires depuis quelques mois, mais ne trouvaient rien qui lui convenait. Elle avait alors décidé d'aller voir la voiture qu'un de ses collègues voulait vendre. Avant de partir, elle nota son numéro de téléphone. Il s'appelait David Carpenter. Heather était un peu en retard. Elle se dépêchait car elle ne voulait pas rater Carpenter. Elle dit au revoir à son ami qui la regarda partir. Elle ne devait jamais revenir. Le lendemain, lorsqu'il constata qu'elle n'était pas rentrée, il téléphona à David Carpenter pour lui demander s'il l'avait rencontrée. Carpenter déclara que Heather n'était jamais venue chez lui et qu'elle n'avait pas téléphoné non plus. Inquiet, le petit ami de Heather décida de signaler sa disparition à la police. Lors d'un interrogatoire, Carpenter s'en tint à la même version. Mais les policiers ne purent s'empêcher de lui trouver une ressemblance troublante avec le tueur des sentiers. Il fut mis sous surveillance pendant 2 semaines. Pendant ce temps, la police découvrit que Carpenter avait un casier judiciaire pour viol et assaut. Il fut convoqué pour subir un nouvel interrogatoire. Lors de la fouille de sa voiture, les experts découvrirent une balle de calibre 38. Elle fut envoyée au laboratoire pour analyse. Le corps de Heather Skaggs fut retrouvé quelques jours plus tard. Une fois sorti de l'hôpital, Stephen Hartle fut convoqué au poste de police pour participer à une séance d'identification. Il n'eut aucun mal à reconnaître l'homme qui avait tué sa petite amie. Il s'agissait bien de David Carpenter. Les détectives avaient enfin arrêté le tueur. Il n'y aurait plus de meurtre dans les parcs de l'État. Mais pour conclure l'enquête, il faudrait trouver l'arme du crime. C'est alors que les policiers apprirent qu'un prisonnier qui avait connu Carpenter était prêt à parler en échange d'une remise de peine. Il leur révéla qu'il trouverait l'arme de Carpenter sous un tas de décombres dans un terrain vague de San Francisco. Il n'avait pas menti. L'arme fut recueillie et envoyée à Mike Waller afin que ce dernier procède aux analyses. Waller tira quelques balles avec l'arme de Carpenter et les compara à celles qui avaient été recueillies sur les diverses scènes du crime. Il n'y avait pas de doute. Les balles étaient parfaitement identiques. Elles avaient toutes été tirées avec la même arme, celle qui avait fait 7 victimes. En plus des analyses balistiques concluantes, les experts en sérologie démontrèrent que le sperme recueilli sur la première scène du crime provenait bien de Carpenter. De plus, ce dernier portait des chaussures dont les semelles étaient identiques à l'empreinte qu'il avait laissée sur un des sentiers. David Carpenter n'avait pas de difficulté à trouver ses victimes. Il gravissait une montagne et surveillait les randonneurs solitaires. Sachant dans quelle direction ils allaient, il pouvait aisément les surprendre. Ensuite, il les exécutait d'une balle dans la nuque. Il fut jugé coupable de 7 meurtres au premier degré et de 3 viols. Il reçut 2 condamnations à la peine de mort. Carpenter trouvait une gratification sexuelle à violer les femmes. Lorsqu'il tuait un homme, c'était parce que ce dernier se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. La plupart des tueurs en série sont des hommes, mais ils ne s'attaquent pas toujours au sexe opposé. Au printemps 1983, en banlieue de Chicago, dans l'Illinois, le corps d'un jeune homme fut découvert sur un terrain vague, près de l'autoroute 94 à Lake County. Il avait été ligoté et torturé. On l'avait dévêtu et poignardé à maintes reprises. Il semblait s'agir d'un cas isolé. Mais quelques semaines plus tard, un autre corps fut découvert près de la même autoroute, à moins d'un kilomètre du premier, dans des conditions similaires. Dans les deux cas, les détectives ne disposaient que de peu d'indices pour identifier le meurtrier. 4 mois plus tard, Ralph Calliz fut découvert assassiné de la même façon, abandonné près de la même section de l'autoroute. Les médias surnommèrent le meurtrier le tueur de l'autoroute. C'est sur la scène du dernier meurtre que les détectives découvrirent un indice important. Il s'agissait d'empreintes de chaussures et de pneus. Ces empreintes n'étaient peut-être pas reliées au meurtre, mais elles allaient peut-être se révéler importantes plus tard si on parvenait à découvrir un suspect. Le détective Dan Collin était convaincu qu'il allait tuer à nouveau.
Lorsque nous avons découvert la troisième victime en août, Ralph Calliz, nous avons compris que nous avions affaire à un tueur en série qui sévissait dans le nord de Chicago.
Comme les tueurs en série ont l'habitude de se déplacer pour éviter d'être repérés, Collin avisa les comtés voisins. Un détective de l'Indiana fut troublé par la description des victimes de Lake County. Il était déjà aux prises avec 9 meurtres identiques qui n'avaient jamais été résolus. Les victimes avaient toutes été poignardées de la même façon et abandonnées près d'autoroute. Une chasse à l'homme devrait à tout prix être lancée. Le nombre de victimes s'élevait maintenant à 12. Les services de police de l'Indiana et de l'Illinois mirent leurs ressources en commun. La police de l'Indiana disposait déjà d'un suspect. Il s'appelait Larry Eiler et avait déjà été arrêté pour un meurtre similaire. Il avait été acquitté, faute de preuves. Les policiers devraient se contenter d'attendre qu'il commette une erreur. La police de l'Illinois avait fait des moulages des empreintes de pneus et de semelles de la dernière scène du crime. Si les policiers de l'Indiana parvenaient à l'arrêter, il serait possible d'effectuer des comparaisons. Moins d'un mois plus tard, ils eurent enfin leur chance. Le 30 septembre 1983, un patrouilleur de l'Indiana s'arrêta pour interroger 2 hommes dans un pick-up garé sur le bord d'un chemin près de l'autoroute 65. Le conducteur déclara qu'il s'était arrêté pour faire une pause. Le policier effectua les vérifications d'usage. Le conducteur s'appelait Larry Eiler.
Lorsque le policier a téléphoné pour vérifier le nom, Le téléphoniste s'en est souvenu et il a appelé le sergent détective de la police d'État de l'Indiana. Ce dernier lui a tout de suite dit d'arrêter Larry et de le conduire au poste de Lowell pour un interrogatoire.
Il y avait une paire de bottes dans le pick-up de Hyler, un couteau ainsi qu'un sac de cordes. Il semblait bien que la police ait arrêté le tueur de l'autoroute juste à temps. Hyler fut mis en détention provisoire et soumis à une séance d'interrogation pendant toute une journée. Il conserva son calme et nia être impliqué dans les meurtres. Pendant que des détectives le questionnaient, d'autres policiers s'affairaient à réunir des preuves à partir des objets saisis lors de son arrestation. Au laboratoire judiciaire, des experts examinaient les indices. On avait enlevé les pneus du pick-up de Larry Hyler et on en avait tiré des empreintes pour les comparer au moulage des empreintes recueillies sur la dernière scène du crime. Quelques jours plus tard, ils reçurent leurs résultats. Les empreintes de pneus correspondaient parfaitement à celles des pneus de Hyler. De même, les empreintes de semelles étaient identiques à celles des bottes réquisitionnées dans son véhicule. Le suspect s'était bien trouvé sur la scène du crime et la police pouvait maintenant en faire la preuve. Mais ces empreintes ne prouvaient pas cependant, hors de tout doute, qu'il avait tué Ralph Calise. Heureusement, la preuve se cachait parmi les indices recueillis lors de l'arrestation de Larry Hyler. Il y avait encore des traces de sang séché sur les semelles de ses bottes et ce sang correspondait à celui de Ralph Calise. De plus, il y avait également des traces de sang sur le couteau recueilli dans son pick-up. Avec de telles preuves en main, les détectives pourraient faire condamner Larry Hyler. Ils l'inculpèrent du meurtre de Ralph Calise et préparaient déjà la reconstitution des événements en vue du procès. Ils étaient convaincus de remporter leur cause. Mais ils se trompaient. Les preuves n'avaient aucune valeur.
Les preuves ont été refusées à cause d'une clause d'exclusion, selon laquelle elles avaient été saisies illégalement. On ne pouvait pas s'en servir contre lui.
Apparemment, le sergent qui avait répondu au téléphone au patrouilleur avait mal interprété une information. La police avait demandé à ce que Hyler soit surveillé et non arrêté. L'arrestation n'était donc pas justifiée. Hyler était coupable, mais toujours en liberté. Et tout ce que la police pouvait faire était d'attendre qu'il tue à nouveau. La police de l'Illinois décida de le garder à l'œil, non seulement pour éviter un autre meurtre, mais aussi dans l'espoir qu'il laisserait de nouveaux indices. Au mois d'août 1984, le concierge d'un immeuble aperçut un homme qui résidait dans un immeuble voisin en train de mettre des sacs dans la mauvaise benne à ordures. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Le concierge décida donc de retirer les sacs et de les mettre dans la benne à ordures de l'immeuble voisin. Il fut confronté à l'horreur. En soulevant le sac, celui-ci se déchira et une jambe perça la pellicule de plastique. Lorsque les policiers se rendirent sur les lieux, ils reconnurent l'immeuble voisin. C'était là où Hyler vivait. Les sacs à ordures contenaient le corps dépecé de Danny Bridges. Bien que ce meurtre ne ressemblait en rien à ceux du tueur de l'autoroute, les détectives étaient convaincus qu'Hyler en était l'auteur. Les sacs à ordures furent envoyés au laboratoire judiciaire du service de police de Chicago, où ils furent examinés par l'expert James Doran.
Nous avons porté une attention particulière aux sacs de plastique dans lesquels se trouvaient les membres de la victime. Nous espérions en fait découvrir des empreintes sur le sac qui nous permettraient de prouver l'implication d'un suspect.
Les sacs furent soumis à la vapeur de supercolle. Doran découvrit une série d'empreintes. Personne ne fut surpris de constater qu'il s'agissait des empreintes de Larry Eiler. Les détectives disposaient enfin d'indices valables. Cette fois-ci, il ne faudrait pas commettre d'erreur. Les preuves étaient formelles. Toutes les procédures avaient été suivies à la lettre. Le règne de terreur du tueur de l'autoroute était enfin terminé. Mais Eiler avait une surprise en réserve. Lors d'un nouvel interrogatoire, Eiler déclara qu'il avait bien jeté des sacs à ordures, mais qu'il avait dû déplacer d'autres sacs pour faire un peu de place. Apparemment, avait-il déclaré, il avait déplacé les sacs qui contenaient le corps. La police savait qu'il mentait, mais en vérité, n'importe qui aurait pu toucher ces sacs une fois qu'ils étaient dans la benne à ordures. Son alibi serait difficile à réfuter. Une fois encore, il semblait que le tueur de l'autoroute échapperait à la condamnation. Dans l'espoir de prouver la culpabilité d'un meurtrier, les experts devraient à nouveau soumettre à la vapeur de supercolle les sacs qui contenaient le corps démembré d'une victime. Cette fois-ci, cependant, c'est l'intérieur qui serait analysé. James Doran découvrit une nouvelle empreinte qui appartenait bien à Larry Eiler.
À ce jour, nous n'avons jamais découvert deux individus ayant les mêmes empreintes digitales. Et à moins que Larry Eiler ait une explication plausible au fait qu'il ait laissé l'empreinte de son pouce à l'intérieur de ce sac, nous avions la preuve que c'était lui qui avait tué Danny Bridges.
Grâce à cette nouvelle empreinte, la police put procéder à l'arrestation de Eiler chez lui. Il fut accusé du meurtre de Danny Bridges. Eiler était à nouveau en détention provisoire, mais cette fois-ci, la police s'assura qu'il ne serait pas remis en liberté. Son appartement fut ratissé au centimètre près. Il n'était pas question de perdre ce procès une deuxième fois. Au premier coup d'œil, l'appartement ne semblait pas avoir été le théâtre d'un meurtre. Mais les experts découvrirent bientôt les morceaux d'un puzzle qui racontait une toute autre histoire. La mort de Danny Bridges était inscrite un peu partout dans l'appartement. Il y avait des traces de sang sur un poinçon recueilli dans la chambre à coucher. Les échantillons étaient trop petits pour être analysés, mais il était cependant plausible de présumer que c'était l'arme qui avait causé les trous sur le corps de la victime. Pour un appartement où un crime de cette violence s'était produit, les détectives étaient surpris de trouver si peu de traces de sang. Si le meurtrier avait démembré le corps dans l'appartement, c'était sans doute dans la salle de bain qu'il avait fait son travail. Les experts retirèrent le seuil en espérant qu'Eiler n'en avait pas nettoyé le dessous. L'idée se révéla bonne, car il s'y trouvait suffisamment de sang pour procéder à une analyse. On envoya un échantillon au laboratoire. Il ne restait plus qu'à procéder à une dernière analyse. Les experts vaporisèrent du luminol, un produit chimique qui réagit au contact des protéines contenues dans le sang. L'appartement s'illumina soudain. L'endroit était couvert de taches de sang. L'analyste Marion Caporusso était chargée d'analyser les indices sur la scène du crime.
When we were doing the luminol processing, although we knew that there was blood.
Lorsque nous avons procédé à l'analyse au luminol, nous savions qu'il y avait du sang, mais aucun d'entre nous n'était préparé à en voir autant. Il avait été essuyé. Le luminol nous a permis de voir exactement comment le meurtrier s'y était pris pour nettoyer la scène.
Les échantillons de sang furent analysés afin de vérifier s'il s'agissait bien de celui de Danny Bridges ou si une autre victime avait été tuée à cet endroit. À l'époque, il était encore impossible d'analyser l'ADN.
Au milieu des années 80, nous en étions aux analyses des marqueurs génétiques. J'ai effectué une analyse et découvert que le sang sous le seuil était du même type que celui de Danny Bridges. Cette combinaison particulière ne se retrouve que dans 3% de la population de race blanche.
Ces statistiques ainsi que les autres indices recueillis sur la scène suffirait à faire accuser Larry Hyler du meurtre de Danny Bridges. Il fut condamné à mort. Il avoua par la suite avoir tué 22 autres hommes durant 4 ans. Le 21 août 1984, il avait ramassé Danny Bridges devant un bar. Plutôt que de le conduire dans un endroit isolé comme il le faisait d'habitude, il l'avait ramené chez lui. Après l'avoir ligoté, il l'avait torturé et poignardé. Il avait ensuite traîné le corps du jeune homme jusqu'à sa baignoire, où il l'avait découpé en morceaux pour s'en débarrasser, puis avait nettoyé les taches de sang dans son appartement. Il ignorait que sa culpabilité laissait des traces qu'il ne pourrait jamais effacer. Il est difficile de comprendre les motivations d'un tueur en série. Les experts savent cependant que ces meurtriers sont incapables de s'arrêter. Quant aux détectives, ils sont, eux, incapables d'abandonner lorsqu'ils sont sur la trace d'un de ces ennemis publics. Ils savent qu'ils finiront par retrouver leurs traces à partir des quelques indices qu'ils laissent derrière eux.